le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, la musique nous fait du bien, quelle que soit notre culture. Nous avons tous en tête des chansons d'enfance ou d'adolescence, des souvenirs de concerts, des chanteurs, des groupes ou des morceaux préférés. Pour le philosophe allemand Emmanuel Kant, la musique est la langue des émotions. À l'heure où l'humanité doit s'inventer une nouvelle manière d'habiter cette planète, la musique est donc un moyen de fédérer les énergies beaucoup plus efficace que n'importe quel rapport scientifique. L'un n'exclut pas l'autre, bien entendu, mais reconnaissez que si les scientifiques du GIEC chantaient leurs rapports, nous serions peut-être plus nombreux à en connaître le contenu. Mais comment les artistes peuvent-ils nous sensibiliser? Jusqu'où peuvent-ils aller? Et pourquoi ne sont-ils pas plus nombreux à se mobiliser? Eh bien, c'est à toutes ces questions que nous allons répondre avec nos invités qui sont tous des artistes engagés.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Et j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio 1 de RFI Fra et Samaa. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes les chanteurs du groupe de rock Chaka Ponk. Merci d'être là parce que vous êtes en pleine tournée pour votre 8e album. Après 20 ans de carrière, cette tournée commencée en 2023 s'achèvera donc le 30 novembre à Paris-Bercy. Et alors, c'est la dernière date. Vous remplissez les salles, mais vous avez décidé d'arrêter vos concerts explosifs. Pourquoi, Samaa ?
On arrête parce qu'on a besoin d'être synchro avec nos combats aussi parallèles, écologiques. Et on fait de la musique et on se rend compte que Chaka Ponk est devenu une machine énorme. On a des écrans, c'est trop gros. Aujourd'hui, on ne peut pas défendre l'écologie, commencer à parler de protéger la planète et en même temps faire des concerts qui consomment comme ça. On se rend compte que dans la musique, l'écologie a très très peu de place. Et on s'était dit aussi que c'est peut-être l'occasion de mettre une lumière sur ce combat-là, qui est l'écologie.
Fra, vous êtes 7 musiciens, tout le monde est d'accord ?
Non, mais ils n'ont pas le choix. Si on arrête avec Sam, du coup, c'est... Non, mais on en a beaucoup parlé. Après, notre concept, il est complètement particulier. On n'est pas en train de dire que tous les artistes doivent arrêter de faire des tournées. C'est juste que nous, on a un concept avec un singe, enfin un animal qui essaye de raisonner l'homme, qui essaye d'expliquer à l'homme que l'homme est en train de faire n'importe quoi sur cette planète, qu'il est enfermé dans une bulle égocentrée basée sur le culte de soi-même, de la carrière, de l'expansion sociale, et complètement coupé, en fait, de l'essentiel, de l'environnement. Donc c'est ça, notre concept.
Et comme dit Sam... Donc un concept très virtuel, hein, avec beaucoup d'électronique,
d'écran. Mais surtout un truc qui nous a rapprochés pour se lancer dans ce projet. On s'est dit qu'on appartenait à une espèce qu'on ne comprend pas, nous, l'humanité, en fait, les humains. Et on avait besoin d'un animal qui essaye de raisonner l'homme. C'est le concept même du groupe. Donc forcément, avec ce concept, avec ce qu'on raconte, comme dit Sam dans nos chansons, on ne peut pas avoir une activité professionnelle qui va déplacer 500 000, 1 million de personnes sur une tournée, aujourd'hui, quoi, avec l'urgence climatique, aujourd'hui, on n'est pas synchro. Donc, évidemment, on a fait beaucoup de réunions, on s'est beaucoup engueulé entre nous aussi. Et puis, finalement, on est arrivé à un constat qui est très simple. On s'est dit, putain, en fait, on a une telle chance d'avoir eu ce succès. En fait, ce succès, c'est un cadeau de la vie. C'est des concours de circonstances, le succès. C'est pas que le talent. Le talent, ça te permet de rester au sommet. Mais au départ, c'est des concours de circonstances, c'est des rencontres, c'est de la chance. Donc, ce cadeau de la vie qu'on a eu d'avoir du succès, puisque la vie est en danger, il est temps de lui rendre, en fait, ce qu'elle nous a donné. Et de partager notre temps entre notre activité professionnelle et musicale et aussi pour des combats concrets pour lutter contre l'hérésie politique et industrielle qui est en train de détruire la planète.
Alors vous allez nous expliquer comment vous allez faire ça. Bonjour Émilie Loiseau.
Bonjour.
Vous venez de sortir votre 6e album intitulé La Souterraine. Alors vous êtes une artiste engagée depuis longtemps sur ces enjeux écologiques. Ceux qui vous suivent se rappellent que vous aviez soutenu la campagne Nous voulons des coquelicots qui avait été lancée en 2018 contre les pesticides. Comment se traduit cet engagement aujourd'hui ?
Plus le temps passe, plus je considère que prendre la parole, avoir une exposition, décider de raconter des histoires, c'est une responsabilité énorme. Je commence à trouver même compliqué de se dire, bon, ensuite chacun fait comme il peut et prend la parole là où il se sent de le faire. Je crois qu'on a une responsabilité énorme dans ce qu'on choisit de raconter, dans les mots qu'on choisit d'utiliser, dans les messages qu'on essaie de faire passer. Et quand on vient parler de son disque. Et rester dans un camp à soi me paraît impossible. Attends, j'ai toujours eu un engagement citoyen, c'est pour ça que j'ai du mal avec le côté artiste engagé, je suis juste une citoyenne dans le monde humaine et qui est forcément en éponge, en résonance avec le monde et qui est traversée du coup par ce qu'il subit. Et de plus en plus, mon âme, mon cœur sont mis à mal et donc j'ai besoin d'en parler. Et je crois qu'avant, j'avais du mal à me dire que c'était possible dans une chanson d'être percutant et pertinent. Je trouvais que c'était facilement... Et j'avais pas envie de ça, d'être pleine de bons sentiments. Donc il a fallu que d'un seul coup, je me sente prise partout, dans mon corps, dans mon cœur, par ces sujets, pour que en fait, ça devienne vraiment une chanson que j'écrive par besoin de respirer mieux. Et que du coup, ça se justifie et que plus ça va, plus j'assume ce devoir de devoir parler des choses. Mais j'essaie toujours de le faire de manière subjective, comme quelqu'un qui raconte ce que ça lui fait, pour essayer d'aller chercher les gens sans être moraliste, sans leur asséner des discours, mais plutôt de leur parler de... Voilà, moi je me sens fracturée là à cause de ça et toi. C'est un peu ça le geste.
Voilà. Bonjour Big Bassi.
Bonjour.
Vous êtes Camerounais, vous êtes vous aussi en tournée pour votre dernier album Madiba Nimbondi. C'est un disque en forme de conte écologique qui parle de l'eau et des fleurs, hein, puisque vous avez rajouté quatre titres à ce premier album. Les auditeurs de RFI vous connaissent bien, hein, puisque vous êtes déjà venu d'ailleurs dans C'est pas du vent parler de votre engagement. Vous chantez en Bassa, ça, une des 260 langues, hein, c'est ça, du Cameroun. C'est un engagement, ça, déjà, pour parler de la diversité culturelle du monde.
Ben, je pense que pour moi, la musique, c'est un moment de sincérité. Et si j'ai envie de me connecter aux âmes des autres, je suis obligé de rentrer dans mon espace de sincérité. Et cet espace commence par rentrer... dans l'imaginaire dans lequel me renvoie la langue bassa qui a structuré ma pensée, qui a structuré ma manière de voir la vie. Et il est essentiel, lorsque j'ai envie d'être sincère avec les gens qui m'écoutent, parce que j'ai la chance d'avoir parfois un auditoire et de rentrer dans les cœurs et de toucher l'immatériel des gens pour faire frémir leur organique, leur côté organique. Et pour cela, il est essentiel de me placer dans cet espace où je suis obligé de parler la langue de vérité.
Et alors, vous avez donc... C'est le premier album que vous consacrez à un élément naturel, je disais l'eau et les fleurs, parce que, justement, vous aussi, cette dimension écologique du monde qui est tellement malmenée, elle vous travaille, elle vous tiraille.
Mais en fait, l'envie est tout simplement venue de parler un peu de ma perspective, celle de... Comment est-ce qu'on vit en paix dans ce monde? Et vivre en paix dans ce monde, c'est prendre notre place, qui est celle d'un élément écologique comme tous les autres. Pour moi, il est essentiel aujourd'hui de comprendre, en tant que vivant, quelle est ma place, quelle énergie que j'ai envie de porter pour que tous les espaces dans lesquels je vis puissent être des espaces sains. Et c'est ce qui m'a amené à commencer à parler un peu de ma perspective, qui est celle de parler de la grande famille du vivant. Et l'eau est la matière qui compose tous les éléments vivants, quels qu'ils soient, quelle que soit leur forme.
Alors vous, vous posez tous des questions, mais est-ce que vous avez entendu parler de la sphère de Las Vegas, cette giga salle de spectacle inaugurée le 4 juillet 2023 pour la fête nationale américaine? Et cette salle est, selon ses promoteurs, la salle de spectacle du futur.
La Sphere at the Venetian Resort est un auditorium de plus de 20 000 places situé à Paradise dans le Nevada. Elle a coûté 2,3 milliards de dollars, elle fait 112 mètres de haut, soit la taille de l'Arche de la Défense, et son extérieur est composé d'un écran géant qui illumine la ville de nuit comme de jour depuis le 4 juillet. En plus de cet écran extérieur de 54 000 mètres carrés, l'intérieur de la Sphere comporte un autre écran LED 16K 50 fois plus grand que celui du Grand Rex, ainsi que 164 000 haut-parleurs dont on nous promet qu'ils pourront contrôler complètement les ondes sonores en envoyant des bruits dans certaines parties précises de la salle pour, par exemple, qu'une partie du public entende des voix en espagnol et l'autre en anglais. Le but du projet est de révolutionner le divertissement en offrant une expérience proche de la VR sans porter de lunettes, du cinéma 4D avec des sièges qui bougent, de la chaleur et des odeurs, et surtout pour les concerts, puisque la plupart des grands événements musicaux du monde se déroulent dans des stades dont les systèmes audiovisuels ont été construits pour le sport et pas pour la musique.
Et voilà, c'est donc la sphère de Las Vegas. C'est le groupe U2 qui a inauguré cette salle il y a un an. Les propriétaires espèrent attirer 5 artistes en résidence chaque année. Ça vous tente, les Chacaponk?
C'est une catastrophe. C'est flippant. C'est flippant. C'est vraiment... c'est un monde à l'envers, de toute façon. On est censé aller vers la sobriété, on va vers le spectacle à outrance. D'entendre ça, je ne connaissais pas, j'avoue. Je
les artistes
ça.
Se précipitent hein, pour produire dans cette salle.
Mais c'est tellement inversé. On est tellement dans un monde inversé. le sens, le rapport de toute façon à la nature est pour beaucoup perdu. Et je crois que c'est là où on a besoin des poètes, des artistes, des philosophes, des intellectuels, des gens de la nature comme les bourguignons, des gens qui s'intéressent vraiment à l'état de la
Quand
terre.
Vous dites les bourguignons sont les époux bourguignons, les époux, qui sont des chercheurs spécialistes des
pardon,
sols.
Voilà. Oui, bien sûr, excusez-moi.
Pas les gens qui
sont très sympas quand même.
Oui, bien sûr.
Sympa,
oui,
bien sûr.
Absolument. Et on a besoin vraiment de se réunir comme ça, justement, parce qu'on a besoin d'aller vers une conscientisation de l'état d'aujourd'hui, de l'état du monde. Et il ne faut pas oublier que quand on parle d'écologie, on parle de la nature, mais en vrai, si on nous inclut dans la nature, les humains, si nature, humain, on est pareil, on est des animaux, en fait. Et je crois qu'à partir du moment où on aura compris qu'on fait partie du même bord, c'est-à-dire que là où il n'y a plus d'hiérarchie presque, c'est-à-dire qu'on est vraiment, qu'on soit tous au même niveau, peut-être qu'on réalisera que les conséquences, en vrai, on les paye, les hommes. Enfin, tout le monde paye. C'est en ça que c'est totalement lié au social. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'écologie sans social.
Sans justice sociale.
C'est le même combat.
Mais en fait on parle de décroissance dans plein de domaines. Il y a un besoin de décroissance aussi, de sobriété dans le spectacle, puisqu'on veut toujours plus. Et c'est normal, on se tire la bourre, en fait, entre artistes. Il y a plusieurs acteurs dans toute cette histoire. Il y a les gens qui organisent les festivals, les producteurs, les artistes, les salles de spectacle. Tout le monde doit réussir à comprendre qu'il faut aller vers une sobriété, et on se tire la bourre pour avoir les plus gros spectacles, les plus grosses scénographies, les trucs les plus impressionnants. Et c'est là qu'il faut qu'on recommence tout de zéro. Effectivement, faire des tournées de stade en jet privé, il faut arrêter ça. C'est aberrant de faire ça aujourd'hui avec
Ping à Taylor Swift.
Non, mais c'est vrai, concrètement, donc c'est vrai que cette sphère à Las Vegas, ça va exactement à l'encontre de ce qu'on peut faire. Et ce que j'ai entendu tout à l'heure, ce que tu disais, c'était exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne qu'on a, et nous on est bien placés pour le dire, on fait des spectacles énormes, on était dans ce truc-là en fait, de surenchère. Maintenant, il faut comprendre que si on veut qu'on s'en sorte, si on veut qu'on puisse encore faire des concerts, des festivals et des tournées bientôt, et que ce ne soit pas impossible à cause de l'urgence écologique, il va falloir qu'on passe sur la sobriété, donc qu'on ne construise pas des sphères géantes et qu'on ne fasse plus de tournées de stade en jet privé, qu'on aille vers des spectacles plus simples, plus humains.
Eh oui, l'art stimule notre imaginaire, mais comment créer les nouveaux récits dont nous avons besoin pour nous projeter vers l'avenir? Nous allons en parler dans un instant, mais d'abord, place à la musique quand même. Dans cette émission, nous allons diffuser un morceau de chacun d'entre vous, mais comme ça, pas de jaloux. Mais pour commencer, voici la Souterraine, Émilie Loiseau, je vous laisse nous présenter ce titre.
C'est donc le titre éponyme de l'album, et c'est une chanson qui raconte une histoire qui met en parallèle deux exemples du vivant qui se consument. Le monde crame, tout crame, mais il y a même plus de sirènes dans la ville parce que tout le monde danse dans une voie souterraine. Et tant que la boule à facettes tourne, ben c'est bon, on peut regarder ailleurs. Et puis il y a la vie d'une femme qui brûle de l'intérieur sur la piste de danse. Elle a l'air d'aller très bien, son mec a l'air de la traiter très bien, mais en fait, en pleine lumière, elle se consume parce qu'elle est sous le joug d'une relation toxique. Donc, et tout le monde regarde ailleurs aussi, ça nous arrange de nous dire qu'elle va bien.
Dans la voie souterraine, elle allait danser chaque soir, Hélène. Dans la voie souterraine, son homme la traitait comme une reine. Et dans le noir, on croyait la voir sereine. Au-dessus de l'arène, juste au-dessus de leur vie souterraine. C'est le feu dans la plaine, toutes les bêtes se bousculent, se déchaînent. Et dans la ville déserte, pas une sirène. Souterraine, au-dessus. au-dessus de la reine. Dans la lumière, son homme n'était pas le même. C'était comme un incendie qui brûla la vie d'Hélène. Il semble que rien ne nous arrête. Souterraine, on danse encore au milieu de l'arène. C'est le feu dans la plaine, mais dans nos têtes on éteint les sirènes. C'est le feu qui l'emporte, comme sur la vie d'Hélène.
Nous parlons du rôle des artistes dans la sensibilisation aux enjeux écologiques aujourd'hui avec le Camerounais Blik Bassi, Fra et Samaa, les chanteurs du groupe Chaka Ponk, et vous, Émilie Loiseau, que nous venons d'entendre. Donc il semble que rien ne puisse troubler la fête, il semble que rien ne nous arrête tant que tourne la boule à facettes. Alors comment on fait pour changer ce rapport au monde, pour créer justement de nouveaux récits? C'est ce que vous essayez de dénoncer tout ça à travers ce refrain?
Oui, j'essaye surtout d'aller raconter une histoire, effectivement, avant tout, qui puisse ne pas être dans le discours. Donc c'est compliqué toujours de rajouter un discours ensuite sur sa chanson. Oui, j'essaye de dire qu'il faut qu'on se réveille, il faut qu'on s'empare de quelque chose. Et si on doit parler des artistes, je crois qu'on peut plus poser la question de savoir si on se sent ou non d'être conscient de ça. Est-ce que ça fait partie de mes opinions? C'est plus une question d'opinion. Voilà. Je crois que c'est plus une question d'opinion. Je commence même à avoir des difficultés avec le terme d'écologie, en fait. On n'est pas écolo, en fait. On n'est pas en train d'entretenir son jardin, en fait. Là, il s'agit de survie. Je pense qu'on a été élevé dans une culture qui nous a par la religion, c'est ancestral, qui nous a placés au centre, qui nous a placés comme l'être vivant le plus important, l'être vivant suprême, celui qui a droit sur tout, en fait, pour survivre. Or on est juste une partie d'un tout. Et on va pas s'en sortir si on ne commence pas à réfléchir comme ça. Moi, j'ai quand même une question, ça me taraude, pardon, je sais pas si c'est possible de faire ça.
Il n'y a pas que moi qui pose des questions.
J'ai pas du tout envie de relancer le débat entre vous et de créer des discussions houleuses. Mais je comprends. Mais est-ce que vous allez continuer autrement? Parce que je crois que c'est ça aussi le message. C'est en fait, on peut faire autrement. On n'est pas obligé d'aller jouer dans ce dôme surréaliste et absurde de Las Vegas où on a été conduit. Parce qu'en fait, je crois qu'en fait, le responsable, c'est aussi ça. C'est ces écrans qui ont fait qu'on a été habitué à une adrénaline constante.
Là, pour les auditeurs qui ne vous voient pas.
On a une adrénaline constante qui sollicite comme ça. Donc, et les concerts, tout la vie, les gens, les discussions entre les autres ne peuvent pas lutter. C'est-à-dire qu'on a besoin de cette sensation d'événement permanent. Donc même les concerts, ils ne deviennent pas suffisants. Il faut des écrans, il faut des trucs qui soient encore plus grands. Et je crois que c'est ça le gros problème qu'on a. Et en tant qu'artiste, si le message qu'on passe, c'est ben nous, on est devenus énormes et du coup, on doit tout arrêter. Moi, ça me pose une question. Je me dis, mais non, en fait, on n'est pas obligé de tout arrêter. On a le devoir d'être décroissant et donc de faire ça autrement.
Comment vous allez faire? Qu'est-ce que
parce
vous
que
allez
parole,
faire?
Parce que votre parole, elle est importante.
Tu lèves un sujet hyper intéressant, c'est que en fait, l'art, c'est hyper important pour la société. On en a besoin, c'est
plus
vital. On a besoin de divertissement, on a besoin de chansons, on a besoin de vidéos. Mais ça, moi, personnellement, je trouve que c'est valable dans une société saine. Or, on n'est plus dans une société saine. On est dans une société qui est bafouée, qui est détruite par des politiques et des industriels, qui est en train de se faire complètement pulvériser par des politiques et des industriels qui en effondrement total. Et ça, c'est rendu possible parce que déjà, les gens qui sont les plus pauvres n'ont pas la force de se battre contre ça, ils sont fatigués. Et c'est aussi rendu possible parce que des gens influents, des artistes qui ont réussi, des gens qui ont pignon sur rue, se taisent et laissent faire ça. Voire même travaillent avec les politiques et les industriels en question. Moi, je pense qu'il faut arrêter de faire des courbettes, par exemple, à Emmanuel Macron. Quand on a une médaille, il faut arrêter de faire des bisous. Il faut arrêter de faire des vidéos YouTube avec Emmanuel Macron pour rigoler pour sa notoriété. Je prends un exemple au hasard, évidemment, pour Emmanuel Macron. Il faut arrêter d'avoir un business plan basé sur le placement de produits. C'est des trucs qui sont complètement aberrants et qui sont à bannir totalement. On est en colloque dans un immeuble, en fait. Tous ensemble, chacun à son étage, avec le respect les uns des autres. Et il y a des gens qui foutent le feu à cet immeuble. Qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va pas faire de la guitare et des vidéos TikTok. À un moment, il faut poser la guitare, il faut aller aider les pompiers. Donc, il faut se positionner. Moi, je pense que le rôle de l'artiste, et c'est ce qu'on veut faire aussi avec Chaka Ponk, c'est en partie de faire son art pour sa carrière, pour son ego, pour son
Mais comment
son
vous
besoin.
Allez faire alors et vous allez partie, continuer ce groupe et différemment
Différemment, c'est pas ça. C'est en partie faire de la musique et à 50% de son temps, utiliser le micro qu'on a, utiliser les réseaux sociaux qu'on a, utiliser les promotions, les interviews qu'on a pour se positionner concrètement contre ces gens qui sont en train de détruire les choses, contre ces politiques, contre ces industriels. Ouvrir sa gueule. Je pense que c'est un rôle primordial aujourd'hui parce que la situation est trop grave.
Et il y a beaucoup d'associations qui ont besoin d'artistes, qui ont besoin de gens comme ça. Et il faut absolument soutenir ces associations parce qu'il y a plein de gens en vrai, des citoyens qui se battent sur le terrain. Et je pense que c'est eux qu'il faut mettre en lumière aujourd'hui. Les artistes, c'est sympathique. C'est important de continuer les chansons, de parler, de dénoncer. Mais à un moment donné, il faut rejoindre les gens. Quoi.
Vous êtes d'ailleurs beaucoup engagé pour Paul Watson, hein, qui est actuellement en prison au Groenland, alors qu'il est reconnu comme un grand défenseur des mammifères marins. Alors, pour accompagner votre album, vous avez demandé à Aurélien Barraud, l'astrophysicien et philosophe français, d'écrire un texte que j'aimerais bien vous lire. Pas tout le texte,
parce qu'il est long.
Sinon, on va y passer l'émission. Mais juste un petit extrait qui me semblait intéressant pour vous faire réagir et aussi pour faire réagir nos auditeurs. Aurélien Barraud écrit « L'Occident s'est tellement aimé à la déraison, à la passion, à la folie, il en a oublié que son monde n'est pas le monde. Il en est venu à croire que toute civilisation devait revêtir la forme de ses propres attendus. Il a commis le métacrime, oublier la contingence, croire que la civilisation ne pourrait pas être autre. Alors même que l'immense majorité des cultures humaines qui ont habité cette planète présentaient des valeurs, des désirs, des imaginaires et des relations radicalement hétérogènes à notre système de destruction massive. Supposer que notre société est la seule possible relève d'un étrange négationnisme historique et anthropologique. Nous ne sommes pas les seuls, nous sommes juste les plus méchants. » Comment est-ce que vous réagissez à cet extrait des écrits d'Aurélien Barraud, Blic Bassi ?
Déjà tout à l'heure, j'entendais, lorsqu'on a parlé de la salle aux États-Unis, et je me disais qu'en fait, les humains ont l'impression qu'il faut créer du grandiose. Or, le grandiose est à nos pieds. C'est-à-dire, le grandiose, c'est la fleur qui, lorsqu'on s'assoit et qu'on observe, comment est-ce qu'elle se réalise, comment est-ce qu'elle... Elle se déploie, c'est grandiose. Il n'y a pas plus grandiose que ça. Il n'y a pas plus grandiose que les herbes de ton jardin que tu coupes et qui, ensemble, grandissent à la même taille. Quand on commence à s'arrêter, juste pour regarder ça et de se dire que l'arbre qui est dans mon jardin, en fait, pour qu'il soit debout, majestueux, il faudrait que sous terre, qu'il y ait donc ses racines, qu'il soit accompagné de champignons, d'autres, de milliers de différents vivants qui le tiennent pour qu'il le soit debout. Le grandiose, il se trouve là. Et malheureusement, on n'est pas éduqué à voir ce grandiose qui est à nos pieds. Et donc l'humain, parce qu'il n'est pas éduqué à voir ce grandiose, pense créer un grandiose qui ne pourra jamais égaler ce que les dieux et la nature ont mis à notre disposition. Et donc, on a besoin de récits. On a besoin de récits puisque c'est lui qui fait, c'est lui qui défait. Comment est-ce que on arrive à porter un récit aujourd'hui qui nous permet tout simplement de comprendre que nous avons la chance qu'autour de nous, tout a été déjà fait. Et je pense
qu'il soit un récit qui soit autre aussi que le rêve occidental avec le capitalisme dont parlait Fra à l'instant, qui en fait est basé sur le bonheur, c'est consommer, la société de consommation, etc. Alors c'est facile à dire quand on a tout, nous les occidentaux, et que beaucoup, par exemple, de nos auditeurs en Afrique nous écoutent et se disent moi, j'aimerais bien avoir juste un petit peu de ce qu'ils ont, eux. Donc, comment est-ce qu'on fait pour...
C'est la notion du tout. Qu'est-ce que c'est que le tout qu'on a ? C'est ça, le problème. C'est le récit qui fait et qui défait. Comment est-ce qu'on arrive à faire comprendre à quelques... Moi, j'ai des cousins qui ont pris la mer pensant qu'ils étaient pauvres. Pourtant, ils étaient propriétaires terriens, qu'ils avaient des terres où il y avait énormément de richesses, comment on enseigne les gens à comprendre et à voir tout ça et à défaire et à mettre au milieu de ces mots et coller des imaginaires complètement différents. Parce que la richesse, qu'est-ce que ça veut dire? Avoir tout, qu'est-ce que ça veut dire? Au contraire, moi aujourd'hui, avec le recul, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien ici. Moi qui vis ici, qui parcours le monde, et je me dis finalement, le tout, il se trouve peut-être ailleurs, ou il se trouve sous nos pieds.
Par comment exemple, est-ce qu'on arrive à le faire? Dans les forêts du bassin
du Congo. Absolument. Mmh. Donc c'est aussi de refaire, et grâce au récit, comment est-ce qu'on arrive... J'ai une amie colombienne qui aime dire, au lieu de combattre la bête, réveillons la belle. Comment on arrive à réveiller la belle pour que, justement, en face, on puisse démontrer aux uns aux autres, grâce à l'art, que, ben, en fait, la belle, c'est vraiment, c'est ce que nous avons autour de nous. Et c'est ce que la nature a, elle a pensé à tout. Il suffit de regarder le corps humain, on se rend compte qu'il n'y a pas plus high-tech que notre corps, comment il fonctionne. Et malheureusement, l'humain, dans sa condescendance, pense créer le high-tech. Donc il faut qu'on rééduque les gens, et c'est à travers les récits qu'on arrive à faire voir cela. Et c'est pour ça que je pense que les artistes ont effectivement un rôle important, puisqu'ils arrivent à rentrer par effraction, dans des cœurs, dans des cerveaux, mais également créer des prédispositions de compréhension en créant des liens qui connectent directement vers l'immatérialité des gens. Et comment est-ce qu'on arrive, parce qu'on est conscient de cela, comment on l'utilise? Et je pense qu'il est essentiel que les artistes, aujourd'hui, se mettent de plus en plus à prendre leurs responsabilités.
Émilie Loiseau.
Je voulais juste rebondir là-dessus. Je crois que du coup, il y a une grosse question qu'on doit se poser en tant qu'artiste, qui est comment on s'implique pour aller tisser du lien aussi et raconter à tout le monde. Parce qu'en fait, il y a quand même aussi une histoire sociale, comme tu le disais là-dedans. Et on l'a vu, moi je l'ai constaté de manière très... Je me suis pris dans la figure quand je suis allée tracter entre les deux tours pour aller essayer de parler aux gens et de voir effectivement l'état de solitude et d'abandon, de sensation d'abandon et de solitude et d'être envahi par des médias qui racontent n'importe quoi, qui nous isolent les uns les autres. Et je crois qu'il y a une grande aussi responsabilité en tant qu'artiste d'aller parler aux enfants, faire des ateliers d'écriture, aller prendre le temps, pas juste faire une date et se barrer, mais faire une date et rester et tisser du lien. Et ça,
quand
ça
vous
prend
disiez,
du temps.
Tracter entre les deux tours, c'est-à-dire entre les
Pardon,
deux tours des élections législatives.
Excusez-moi. Oui,
en
c'est
France.
Ça.
Alors, vous êtes tous les quatre formidables, mais malheureusement, il y a trop peu d'artistes, hein, vous le dites aussi, qui s'engagent pour inciter à repenser ce rapport au monde en lien justement avec les limites planétaires. Alors, comment fédérer d'autres artistes? Nous en parlons dans un instant. Mais d'abord, je vous propose d'écouter un de vos morceaux, Blic. François Porcheron a choisi Bengue, enregistré en live à Chicago par Audiotree. Vous nous présentez en deux mots?
Oui, en fait, dans Bengue, je parle de la pluie qui... En fait, c'est un vieux qui raconte, dans un village, qui raconte à ses petits-enfants la mort de la pluie. Il leur dit, en fait, souvent, avant, la pluie, elle venait, elle nous rendait visite, elle tombait derrière la maison et les humains l'ont tuée. Elle ne vient plus, la pluie.
No. l'aime. Et nous, c'est n'a ni l'ombre par le ténèbre. Et nous, si c'est ma gêne par le ténèbre. Et bien qui nous gêne.
Entendez que ça discute dans le studio pendant la musique. C'était Bégué du Camerounais Blik Bassi sur RFI.
R. F. I. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Des questions, des témoignages, des idées? Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Nous parlons du rôle des artistes dans cette société. Je n'ose plus dire pour sensibiliser aux enjeux écologiques, mais pour nous relier, voilà, en tant qu'appartenant tous à la chaîne du vivant, donc avec le Camerounais Blik Bassi que nous venons d'entendre, avec Fra et Samaad, les chanteurs du groupe Chaka Ponk et Émilie Loiseau. Alors malheureusement, hein, je l'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas très nombreux en tant qu'artistes à vous investir sur ce sujet. Alors comment fédérer? Je vous propose un petit retour en arrière. Rappelez-vous, c'était en 1985, le chanteur américain Harry Belafonte a réussi à motiver Lionel Richie, Quincy Jones et Michael Jackson pour réunir une quarantaine de stars américaines. Cela a donné la chanson mondialement connue We Are The World, qui a été vendue à plus de 20 millions d'exemplaires. Ça a permis de récolter à l'époque plus de 70 millions de dollars pour lutter contre la famine qui sévissait en Éthiopie. Harry Belafonte revient sur cet engagement dans le documentaire de Boy Nguyen sur les coulisses de cette histoire. Le documentaire s'appelle The Greatest Night in Pop.
Au même titre que la lutte pour les droits civiques, Harry Belafonte considérait que la pauvreté dans le monde, et particulièrement en Afrique, méritait d'être mise en lumière.
For some time now, we have been hearing reports of another famine in Africa, this time in Ethiopia.
Un enfant affamé s'éteint en silence. En Afrique, ils s'éteignent par milliers. Lorsqu'on découvre l'étendue de l'horreur que représente une telle indigence et une telle famine, on ne peut pas rester sans rien faire.
Son but était que les gens de notre génération s'impliquent dans ce qui était en train de se passer en Afrique. Évidemment, j'ai accepté. Tous les plus grands artistes de la génération se sont réunis avec leur ego, mais surtout leur talent, pour sauver des vies.
Alors pour sauver des vies, il s'agit de ça aujourd'hui, hein, sauver des vies. On voit que l'Afrique, par exemple, Blik Bassi est sous les inondations en ce moment, plié dans l'eau. L'Amérique du Sud subit des incendies. On parle de sauver l'ensemble des vivants, mais aussi l'humanité. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut refaire un We Are The World?
Non, je pense qu'il faut faire corps avec la nature pour danser avec elle. Parce que malheureusement, on a décidé qu'on faisait plus partie.
Oui, mais comment on fait passer ça? Comment on fédère les gens pour impulser cet état d'esprit?
À mon avis, si on a la volonté, c'est très facile. Hein. C'est-à-dire, il suffit que dès notre bas âge, qu'on nous apprenne à l'architecture de notre corps déjà, et puis de tout ce qui nous entoure, des herbes, des arbres, etc. Et à partir du moment où on comprend exactement comme la mécanique de notre moteur, quand on sait que quand on a une voiture, on comprend la mécanique et le fonctionnement de notre moteur, on sait ce qu'on doit mettre et ce qu'on ne doit pas mettre. Et à partir du moment où on apprendrait l'architecture de chaque élément autour de nous, ben en fait, on n'aurait même pas besoin de sensibiliser les gens parce qu'on saurait que si je jette un plastique par terre, ça vient arrêter une transformation, une vie sur Terre, puisqu'autour de nous, il y a des milliers de bactéries, même ici où nous sommes assis, qui sont invisibles et qui participent à la vie. Et à partir du moment où on enseigne ça aux gens, ça devient évident.
Donc ça passe par l'éducation.
Absolument, et la sensibilisation. Et comment est-ce qu'on arrive à parler aux gens de leur vie? Parce qu'il s'agit de nos vies, il ne s'agit pas de quelque chose d'ailleurs.
Ben on le ressent aujourd'hui dans nos chairs, même en France, on sent qu'il fait de plus en plus chaud. On voit partout dans le monde des endroits qui sont, on parle de rivières de plastique en Afrique et ailleurs. On voit donc tous les jours sur RFI, on a un service environnement avec 9 journalistes qui sont à 100% sur cette thématique et qui tous les jours documentent cette catastrophe qui est en cours. Alors, Fra et Sama, vous avez créé un collectif qui s'appelle les Freaks. Les Freaks, c'est des animaux... moche, hein.
C'est des gens étranges.
Voilà, des gens étranges. Et vous avez envie de...
Des marginaux, quoi.
Ouais, des marginaux, bon, qui, dans l'absolu, il faudrait qu'ils deviennent majoritaires, ces marginaux. Oui. Mais c'est quoi l'idée de ce collectif?
Au départ, c'était en, faut remettre dans le contexte, c'était en 2017. Donc c'était l'idée, c'était de créer une liste de comportements qu'on a créé avec des professionnels de l'écologie, qui sont des comportements qui font qu'on prend conscience de ce qui est nocif pour l'environnement, de ce qui est nocif pour nous, et de créer une liste de comportements adaptés à l'urgence écologique et de rassembler...
En rapport avec ce que disait Blic, finalement.
Exactement, et de rassembler autour de cette liste des gens qui ont des gros réseaux, des gens qui sont influents, qui sont suivis par des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions de personnes, en leur demandant deux choses, d'adopter un maximum de ces gestes toujours, pas juste le week-end, c'est un petit challenge et tout ça, on rigole. Genre toujours, maintenant, tu changes ton ADN de consommateur, en fait, tu vis différemment. Tu te reconnectes à l'importance de la nature et tu prends conscience de chaque conséquence qu'a chacun de tes choix de consommateur.
Montrer l'exemple, en fait.
En parler, c'est ça, justement. T'as des gros réseaux, t'as un micro, encore une fois. Explique aux gens qui te suivent, qui t'écoutent. Il faut qu'ils t'entendent aussi, qu'ils sachent qui tu es. Explique ce que tu as décidé de faire et explique-leur comment faire. Donc, c'était juste un changement d'ADN, en fait, au départ.
Bon, après, il y a eu le Covid, évidemment, ça a un peu stoppé l'élan.
Quand on parlait aux gens d'écologie, ils disaient « non, ça ne m'intéresse pas
». Même si le Covid, c'est quand même de l'écologie.
Ah bah ça, oui, ça nous a
On fera une autre émission, on en a fait plein, mais sur le Covid. Mais donc, aujourd'hui, vous voulez relancer, Sama, ce collectif, c'est ça l'idée?
Oui, on aimerait bien relancer, effectivement. Là, on va avoir plus de temps, justement, pour pouvoir... aller sur le combat écologique, mais en fait tous les combats sont nécessaires. Il faut faire ça, il faut faire ça. Je crois que chacun peut réagir à son échelle. Ce que tu disais tout à l'heure, d'agir au niveau de l'éducation, parce qu'en fait là c'est le fond, parce que le travail, il y a un tel déni généralisé et un tel greenwashing imposé par les États qui finalement dépendent que des lobbies, ils sont nourris par les lobbies, ils ont aucun intérêt de faire changer les choses.
Le problème de l'éducation, c'est que ce sont les enfants, en attendant que les enfants soient des
gens. Exactement, c'est pour ça que tous ces combats sont utiles, c'est-à-dire qu'il faut les enfants, les jeunes d'aujourd'hui, il y a des associations de jeunes, Extinction Rebellion, qui sont révolution permanente, en fait qui sont actifs sur le terrain, et beaucoup de jeunes, des étudiants, on n'a jamais vu autant d'activisme dans la jeunesse, on a besoin d'eux, on a besoin de tous ces combats, éducation, dans l'action, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'artivisme ou l'activisme, il faut tous réagir, c'est vrai que de toute façon il faut une certaine, entre guillemets, révolution, il faut faire changer les choses par l'action. Et aussi,
oui, mais quelle action, parce que Émilie Loiseau, vous avez beaucoup manifesté, on vous a vu beaucoup manifestations.
Je crois qu'on n'en est plus là.
Ouais.
Et
les manifestations n'aboutissent pas à grand-chose, en fait.
Moi, je suis complètement d'accord. Je suis d'accord qu'il faut être partout, à l'endroit éducatif, à l'endroit législatif aussi, aussi qui est-ce qu'on décide d'élire, hein, se battre à chaque endroit. Mais je crois fondamentalement que il est indispensable qu'on se rapproche des activistes et qu'on les soutienne.
Exactement.
Quelqu'un qui est capable de mettre sa vie en jeu, comme Thomas Braille ou tous ses amis
Thomas Braille, qui se mobilise pour la 69, pas seulement contre la 69, mais qu'on a vu
au sujet de la 69, et qui a mis sa vie en jeu, il a été inaudible pendant un moment. C'est-à-dire que il y avait une absence
quand
médiatique.
Quand il s'est accroché dans l'arbre en face du ministère de la Transition écologique pendant des semaines, là, les médias s'y sont intéressés.
Les médias s'y sont intéressés, mais je veux dire, c'est...
Mais il n'y avait pas beaucoup d'artistes en bas de l'arbre.
Non, et ils ont besoin de nous. Et il est urgent, et ils le demandent, pour avoir discuté avec lui et vous aussi, chez Chaka Ponk. Ils sont ces activistes-là, Claire Nouvian aussi, qui agit à un autre endroit.
L'association
aussi.
Bloom, de la défense de l'océan.
Voilà, ils ont... C'est parce que à un moment donné, les réseaux sociaux amplifient les bras de fer qui mènent. Et nous, en tant qu'artistes, je pense qu'on a un rôle à jouer là-dessus, que d'un seul coup, ils arrivent à trouver des points, à enfoncer des portes. Et je crois que cet endroit-là, c'est l'endroit de l'urgence. Et il faut à tout prix qu'on les laisse pas seuls. Parce que, voilà. Ensuite, effectivement, les manifestations, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'être dans la rue. Mais je veux dire, on sait que, bon, voilà, on a des cordons de CRS qui nous accompagnent jusqu'à la fin, puis chacun rentre chez soi, et qu'en fait... Ça ne fait rien avancer, en fait.
Oui, il y a le chiffre des manifestants, ouais, c'est de la symbolique.
Exactement.
Il y a quand même une symbolique nécessaire, je crois, dans la manifestation. Je crois qu'il faut, mais ça ne suffit pas.
Non, mais il y a un truc qui est hyper important, et c'est ce qu'on est en train de tous de dire, en fait, depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a une force extrêmement puissante qui est là depuis toujours, qui est composée de médias, de politiques et de lobbies, qui est en train de décider du sort de tout le monde sur cette planète.
Et qui n'est pas là depuis toujours, qui est en train de décimer le vivant. 50, 60 ans.
Oui, c'est ça, mais ça fait long.
Changer.
Et qui va rien changer. C'est et en ça. Face de ça, c'est un truc qu'on trouve aberrant, c'est pour ça qu'on se lance dans un truc comme les Freaks, c'est qu'il y a des gens influents, des artistes, des gens qui ont réussi, qui ont d'énormes réseaux sociaux, qui sont des gens qui ont une fibre, une sensibilité parce qu'ils sont artistes.
Mais j'imagine que c'est trop tôt pour vous demander des noms, mais vous arrivez à fédérer parce que les artistes, ils ont leur ego, ils ont leurs intérêts, ils ont leurs industries.
Oui, mais ce qu'on pourrait faire si on se rassemblait entre artistes avec nos gros réseaux, avec notre influence, avec tous ces gens qui nous écoutent, et qu'on crée un contre-pouvoir, contre justement ces médias, ces lobbies.
Il va falloir aller plus fort qu'en 2015, par exemple, où il y a eu la COP21 à Paris, où il y a eu des concerts pour le climat.
Non, mais
et
c'est
puis
pas
derrière,
des concerts. C'est pas des concerts qu'il faut faire, c'est que des gens sur leurs réseaux sociaux prennent position, que des gens sur leurs réseaux sociaux disent je suis, nomme les gens. Parce qu'on dit toujours l'écologie, on parle de l'Afrique, la famine, c'est horrible. Mais qui crée ça?
Il faut kidnapper le débat.
Quels sont les gens au gouvernement qui créent ça? C'est eux qui. Il faut que les artistes nomment, se disent ce mec est responsable, ce président est responsable, ce gouvernement, Coca-Cola est responsable, et le disent sur leurs réseaux sociaux parce que ça va devenir un média, si on se rassemble tous, énorme, une force, un contre-pouvoir pour essayer d'arrêter cette hérésie
destructrice. Ce que vous dites me fait penser à une anecdote, mais pour aller dans votre sens, je me souviens de Ronaldo, le joueur de foot,
Ronaldo.
Ouais. Non. Cristiano Ronaldo, on dit, c'est ça, hein,
c'est
Cristiano.
Ça, ouais.
Cristiano Ronaldo, qui face aux caméras durant une conférence de presse, a décalé la bouteille Coca-Cola, juste pour dire ça, c'est pas pour moi. Oui. La chute de l'action Coca-Cola a été immédiate dans la journée.
Alors,
il n'y a pas assez de sportifs qui s'engagent
non
plus,
mais le boycott,
c'est pour dire que c'est efficace
et vital.
Le boycott, c'est
une arme, le boycott. Il faut arrêter de vouloir être populaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mode, il faut que ce soit impopulaire. Il faut être impopulaire. C'est-à-dire que si on veut toujours être populaire et marcher, avoir peur de son image, parce qu'il y a beaucoup de peur dans tout ça quand on parle aux artistes, peur de son image, tout ça. À un moment donné, il faut changer de système et que le populaire devienne impopulaire. Peu importe d'être impopulaire. Impopulaire, ça doit être la nouvelle image de marque.
Il y a aussi une crainte de plus passer sur les radios.
Exactement,
de, voilà.
Parce que les menaces sont réelles.
C'est pour
bien
ça qu'il faut s'unir et
la censure.
Parce que sinon, on va être censuré.
Bien sûr.
Si on laisse les autres se faire censurer et qu'on n'est pas derrière eux.
Bien sûr.
En fait,
c'est pour ça qu'il faut être plein.
Voilà, il faut être plein et il faut en parler.
Oui. Tu peux dire le mot, il y a une peur de représailles, en fait.
Bien sûr.
Il y a une peur de représailles.
Bien sûr.
En fait, tout est basé
marqué.
Sur la peur.
Exactement.
Il y a une espèce de climat qui s'est instauré, on l'a vécu dans plein de cas de figure, avec les dernières, ce qui se passe en termes d'élections. Tout est basé sur la peur, et donc les gens ont peur, et donc les artistes ont peur de perdre des followers ou de perdre des médias, tout ça. Donc, ose pas parler.
Et de se réunir. Sainte-Soline, c'est des gens qui sont réunis, ils ont été tabassés. Le message du gouvernement est très clair.
Une manifestation contre les médias bassines.
Très clair. Hein, voilà. Il y a des nouveaux mots, éco-terroristes.
Blic-Bassi.
Oui, non, en fait, je pense juste qu'il faudrait qu'habiter différemment nos espaces doit devenir sexy. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut réveiller la belle. Il faudrait que les gens aient l'impression que vivre sainement, vivre en harmonie avec la grande famille du vivant devienne sexy et que ça donne envie à tout le monde. Et effectivement, des initiatives portées par les artistes sont importantes, d'où on a créé avec Anne-Cécile Bras le collectif Today Not Today qui essaye justement de mettre ensemble des artistes, des détenteurs de savoir endogène et des scientifiques afin de réfléchir aux nouvelles façons d'habiter nos différents espaces. Et donc, avec ce collectif, ce qu'on essaye de faire au Cameroun, on a pas mal d'activités, mais notamment tous les mois, on essaye de sensibiliser les artistes à prendre conscience de leur influence. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont influents, mais ils ne le savent pas parce qu'ils sont retrouvés artistes par hasard et avec un succès qu'ils ne savent pas trop comment le gérer. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à les conscientiser du fait que, écoutez les gars, en fait, chacune de vos actions impacte un certain nombre de personnes. Qu'est-ce que vous faites de cet impact? Est-ce que vous êtes au courant qu'une action positive permettrait
de pouvoir vivre différemment, participer à l'émancipation des populations.
Montrer comment, l'exemple en allant ramasser le plastique dans votre quartier.
Exactement.
C'est pas par que exemple, ça. Non, non, mais je suis entièrement d'accord. C'est aussi la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Et Aurélien Barraud le disait, parce qu'on parlait de lui tout à l'heure, c'est pas des solutions techniques, c'est une question de vision du monde qu'il faut qu'on change. Et il y a un truc qui est très important.
Absolument.
Il y a un truc qui est très important, et c'est exactement ce que tu dis, c'est que on est en train d'arriver dans le mur, concrètement. Et la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est qui tu veux être dans, dans ce cirque.
Ouais.
Qui tu veux être, toi? Tu veux être celui qui a fermé les yeux,
absolument,
qui a laissé les choses faire, voire qui a même participé au truc, ou tu as envie d'être celui qui va faire tout pour essayer de sauver les choses, même si on n'y arrive pas.
Ouais.
Qui tu veux être dans cette histoire? C'est ça que tous les influenceurs, tous les artistes doivent se poser comme question par rapport à leur carrière et par rapport aux enjeux écologiques d'aujourd'hui.
Alors justement, pour citer Aurélien Barraud et pour terminer cette émission, puisqu'on arrive à la fin, il n'est pas principalement question d'émettre un peu moins de dioxyde de carbone, mais juste de cesser d'accorder une valeur nulle à la vie. Voilà ce que dit Aurélien Barraud. Vous êtes d'accord avec ça, j'imagine. Merci en tout cas à tous les quatre d'être venus dans le studio 1 de RFI. Chaka Ponk, votre tournée continue en France, c'est jusqu'au 30 novembre et après, terminée en tout cas sur cette version.
Après, on réinvente
après,
les choses, on en reparlera.
Vous viendrez nous en reparler. Blic, vous organisez un festival de la production à Kribi au Cameroun, ce sera en novembre. Et Émilie Loiseau, la tournée démarre le 5 novembre et vous serez à la Cigale le 6 février. Alors on se quitte en musique avec Chaka Ponk. Resign, c'est le titre de la fin.
Oui, ça sent le sapin.
Oui, ça sent le sapin. Voilà, Resign, c'est le titre de la fin. Merci à Caroline Fillette pour la préparation, à François Porcheron pour la réalisation et à Swell Kedir qui a filmé avec toute son équipe cette émission que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux de C'est pas du vent et de RFI. Prenez soin de vous, des vôtres et du monde. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Même planète, même heure. Don't you worry about it. It's not up to them to decide. Stand up by my side. Stand up by my side. Don't you worry about it. Such masquerade in the news locals. When it's politic and it's fence pros. There's a lot of lies and I don't know. There's a lot of lies and I don't know. So many people pray it's gonna be okay. So many people pray we're gonna find a way. But the leader's plotting in the shadows. Sucking off the love is in the shadows. That to schedule inside. Always acting like surprise. When the youth is going wild. When the young core is on fire. And if you don't wanna resign, join us in the fight. Join us in the fight. Don't you worry about it. It's not up to them to decide. Stand up by my side. Stand up by my side. Don't you worry about it. Everything's gonna be okay. Wanna make the rules and make money. What is just another lie? What is just another lie? Space and time might be relatively tight, but it's up to you, baby, if you don't wanna resign. Space and time might be relatively tight, but it's up